Bonjour à tous, il est 11h ici à Paris, 13h à Damas et à Homs.
Karine Bellicha.
À la une, alors que les diplomaties s'activent dans la nouvelle Syrie post-Assad, les habitants, eux, célèbrent toujours la chute du régime. Des rassemblements festifs ont lieu tous les vendredis, comme hier soir à Homs. Reportage d'Abla Jounaïdi à suivre. La guerre au Proche-Orient se poursuit sur plusieurs fronts, à Gaza, en Cisjordanie, mais aussi entre les Houthis du Yémen et Israël. La rébellion a de nouveau revendiqué des tirs contre l'État hébreu hier. À chaque salve, Israël et ses alliés répliquent sans grande efficacité. Et puis une page culture avec le grand retour de Wallace et Gromit, un nouveau long-métrage sur Netflix où l'on retrouve les personnages bien connus, mais aussi un nain de jardin doté d'intelligence artificielle. Le nouveau ministre des Affaires étrangères syrien se rendra la semaine prochaine au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Prochaine étape de sa tournée diplomatique après l'Arabie saoudite mercredi dernier. Hier à Damas, les ministres français et allemands ont demandé aux nouvelles autorités post-Assad d'assurer une transition pacifique et inclusive, notamment vis-à-vis des minorités religieuses. Pendant ce temps, les Syriens, eux, continuent de célébrer la chute d'Assad à Homs, à l'ouest, qualifié souvent de capitale de la révolution, pour avoir accueilli les premières grandes manifestations anti-régime. Les habitants reprennent goût aux sorties en famille. Pour le quatrième vendredi de suite, ils ont investi les places publiques de Homs. Abla Jounaïdi est allée à leur rencontre.
Les chants et musiques de la révolution syrienne volent au-dessus de la place de l'Horloge, le lieu symbole des manifestations contre Bachar al-Assad, réprimées dans le sang en 2011. Talal savoure un droit nouveau, dire ce qu'il a sur le cœur.
On le dira demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Dieu maudisse ton âme, Hafez. Dieu te maudisse pour avoir enfanté ce porc.
Le régime de fer de Hafez puis Bachar al-Assad a fait fuir des millions de Syriens de leur maison. Plusieurs sont de retour et profitent de la place de la mosquée Khaled ibn Walid. Venue d'Idlib, Salma ne cache pas son émotion.
Ce que je ressens, rentrer chez moi dans mon pays, c'est... On peut vivre loin, mais le pays reste en soi, louange à Dieu. J'espère qu'il ramènera tous les absents chez eux.
Heda, venue juste pour la journée, sait qu'elle devra quitter Homs ce soir.
C'est impossible pour moi de rester, je n'ai pas les moyens, pas de logement. Peut-être bientôt, je l'espère. Mais croyez-moi, une tente à Homs vaut mieux que l'exil. Il n'y a que 2 heures de route avec Idlib, mais on se sentait exilés dans notre propre pays.
Le retour des déplacés pour une ville largement détruite, c'est l'un des nombreux défis des nouvelles autorités. Abla Jounaïdi, Homs, RFI.
En Cisjordanie occupée, la tension est forte après un raid de l'armée israélienne dans un camp de réfugiés de Naplouse. Un Palestinien a été tué, 9 autres blessés. L'armée affirme avoir riposté à une attaque lors d'une opération antiterroriste. La guerre au Proche-Orient se poursuit aussi sur le front sud. Hier, les Houthis ont revendiqué le lancement d'un missile et d'un drone intercepté par l'armée israélienne. Un scénario qui se répète depuis l'attaque du 7 octobre. Et la guerre à Gaza. La rébellion yéménite dit agir en solidarité avec les Palestiniens. En retour, Israël et ses alliés frappent les installations militaires des Houthis sans grande efficacité. Quelle pourrait être la stratégie des autorités israéliennes dans le futur? Nicolas Roca a posé la question à Franck Hermier. Il est anthropologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Yémen.
Ils subissent des frappes israéliennes et américano-britanniques, des bombardements, principalement là où se trouve en fait leur rampe de lancement de missiles ou de drones. Mais dans le même temps, jusqu'à présent, il est très difficile pour leurs ennemis de faire plus pour l'instant. Sinon, il faudrait qu'ils changent de stratégie, qu'ils développent des bombardements beaucoup plus massifs, comme ce qui a été fait par Israël, notamment dans le cadre de sa lutte contre le Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Ou alors également viser des personnalités houthis, des personnalités politiques du régime des houthis. Et ça n'a pas encore été enclenché. Une autre étape pourrait être aussi d'aider l'armée yéménite légitime à avancer sur certains fronts. Certains analystes yéménites prédisent notamment une reprise des hostilités entre les houthis et l'armée loyaliste en 2025 après finalement l'échec de la trêve dans le sens où il n'y a pas eu en fait de résolution du conflit.
Franck Hermier, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, interrogé par Nicolas Roca. En Corée du Sud, partisans et adversaires du président déchu sont dans les rues de Séoul aujourd'hui. Chaque camp manifeste et se fait face après la tentative d'arrestation de Yoon Suk-yeol qui a tourné au fiasco hier. Les enquêteurs sont repartis bredouille devant la détermination de ses services de sécurité à empêcher son interpellation. L'heure tourne toujours avec l'expiration lundi du mandat d'arrêt émis par un tribunal de Séoul. Direction Haïti. À présent, le contingent étranger continue de se renforcer pour prêter main forte aux forces de sécurité locales face à la violence des gangs. Après le Kenya, ce sont cette fois des militaires du Guatemala et du Salvador qui sont arrivés en Haïti. À Port-au-Prince, Peterson Luxuma.
Pour faire revenir la paix dans la capitale haïtienne, l'aide internationale arrive au compte-gouttes. Ce vendredi, 75 soldats guatémaltèques et 8 soldats salvadoriens ont foulé le sol haïtien pour rejoindre les 400 policiers kényans déjà présents en Haïti. Lionel Lazare est le porte-parole adjoint de la police.
Ils sont arrivés dans le cadre des promesses faites pour assister et appuyer la police nationale d'Haïti dans la grande bataille qu'elle mène contre les gangs armés en Haïti.
De hautes personnalités, dont le patron du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, le chef du gouvernement, le chef de la police et l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, sont venus en personne accueillir ces nouveaux soldats à l'aéroport international Toussaint Louverture. En ce qui concerne les 8 militaires salvadoriens, ils ont été déployés pour préparer l'arrivée imminente d'un contingent plus important de troupes salvadoriennes. L'arrivée de ce contingent est un bon signe, selon Lionel Lazare.
La police nationale.
La PNH et les policiers kényans poursuivent la bataille. Ces nouveaux effectifs, fraîchement arrivés, représentent une hausse significative par rapport à ceux qui étaient en place auparavant.
Une nouvelle étape dans cette collaboration internationale, mais le chemin est encore semé d'embûches pour retrouver un semblant de stabilité dans la vie quotidienne des Haïtiens. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Aux États-Unis, Mike Johnson a été réélu au poste de président de la Chambre des représentants, malgré l'opposition d'une partie des élus républicains. Finalement, les récalcitrants sont rentrés dans le rang. Un premier test d'influence pour Donald Trump, qui avait clairement soutenu Mike Johnson. Le président élu a donc réussi à tenir ses troupes avant son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier. Et c'est le 10 janvier, 10 jours avant son investiture, donc, que Donald Trump connaîtra sa peine dans l'affaire Stormy Daniels. En mai dernier, il a été reconnu coupable d'avoir dissimulé des paiements à cette actrice porno pour obtenir son silence sur leur relation. Le juge précise que la prison ferme est exclue. Sur son réseau social, le milliardaire dénonce une attaque politique illégitime et une mascarade. De la culture, à présent, ce début d'année sur Netflix, c'est le grand retour du film d'animation Wallace et Gromit. 20 ans après le précédent épisode du mystère du lapin-garou, le créateur Nick Park revient avec un nouveau long-métrage, Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. Côté tradition, le grand retour d'un célèbre manchot de la saga. Côté modernité, un nain de jardin doté d'intelligence artificielle. Constantin Jalot.
Pour commencer l'année sur une note d'humour anglais, Netflix propose les nouvelles aventures de Wallace et Gromit, les deux célèbres personnages de pâte à modeler, toujours filmés en stop motion. Wallace, l'inventeur ingénieux autant que ingénu, et son éternel partenaire Gromit le chien voient le retour dans leur vie du terrible manchot cambrioleur, reconnaissable par le gant de latex rouge qu'il porte sur la tête en guise de crête.
Dieu du ciel, c'est vous encore ?
Cette fois, le manchot s'échappe de prison pour détourner la dernière invention de Wallace.
Le nain intelligent artificiel.
Le nain intelligent artificiel est un petit robot autonome à commande vocale dont le bandit manchot va prendre le contrôle.
C'est la palme de la vengeance.
On retrouve les inventions délirantes de Wallace, les nombreux jeux de mots, ainsi qu'une fine satire sociale. Car sous couvert d'un ton léger, Wallace et Gromit, la palme de la vengeance, aborde les thèmes plus sérieux des risques de l'intelligence artificielle et de l'impact du progrès technologique sur nos relations.
Un mot du Vendée Globe pour finir. Charlie Dalin a presque doublé son avance sur Johan Richaume la nuit dernière. Après avoir traversé une zone de vent faible, les deux leaders de la course en solitaire autour du monde ont repris de la vitesse avec des vents plus soutenus pour remonter l'Atlantique jusqu'à la France et les Sables d'Olonne. Voilà, c'est la fin de ce journal.